est-ce que on doit être concis?
Ouais. Non.
Ah ok, voilà. Ah, c'est non, ça. Non, moi, c'est non, ça qui m'intéresse. Non, non, non. Donc si on dépasse chill. Un peu, ou tu veux que je fasse des phrases courtes, moi,
non.
Je
m'en fous, je m'adapte. Alors, dis juste oui ou non.
Ouais, ok.
En fait, ça me suffira.
Ouais, c'est super. Bah, c'est un podcast de.
Comment ça va? Oui.
Ouais, mais 3 minutes de podcast, franchement, si c'est efficace, franchement, ouais. Ça tue.
Où est-ce qu'on te voit sur scène? Eh ben, sur
rodage. Souvent. Ouais.
Non, évidemment, tu c'est alors ultra libre.
Ok, vraiment. Cool.
Tu fais après, ça nous arrive de couper des trucs, mais c'est très très rare. En général, on laisse d'un bloc.
En fait, quand on fait ce signe-là.
Ouais. Donc bah, tout ce qui est nostalgie du nazisme, on oublie.
Ouais, voilà. Okay. Ouais.
Si tu veux, on va le garder pour un autre podcast.
Je sais pas
podcast.
Comment je vais faire parce que j'ai du mal à pas en parler, quoi. Mais ok.
Tu vois, il y a un autre podcast qui est dédié à ça.
Ouais. Chez nous, on aime beaucoup les humoristes qui disent des choses même sans parler. On adore quand une vanne est bien plus qu'une vanne, mais quand elle traduit une époque, une pensée ou un sentiment. Pour ma part, je suis dans une réflexion qui dit que le monde n'a au final plus beaucoup de sens, que ça part en vrille pour ne pas dire autre chose, qu'il est un conte cruel ce monde, comme le disait un poète du 19e siècle nommé Villiers de l'Isle-Adam. Alors pour incarner un contre-discours ou pour tout simplement ne pas consommer un kilo de Xanax avec un bon verre de whisky, et oui, on est aussi des bons vivants, on aime le bon whisky. Eh bien, l'humour absurde doit régner en maître absolu. Yacine Bellous, qu'on embrasse, l'a par exemple très bien compris. Mais il y a aussi une autre personne qui l'a bien compris, c'est Xavier Dupont de Ligonnès, qui paraît-il adore les Monty Python. C'est pas vrai, on ne sait évidemment pas où il est, excusez-moi. Plus sérieusement, quoique, cette autre personne, c'est Dedo, qu'on a grand plaisir à recevoir dans ce nouvel épisode de LOL Meet Tender qui commence... maintenant, qui est une véritable fête cet épisode, je le sens déjà, oui, Raphaël.
Un festival.
Un petit festival.
Un festival voilà. À lui-même.
Ça se sent dans ta voix, j'ai vraiment envie de faire des saltos arrière.
Ouais, j'avais un peu une voix de forain parce que tu vois, quand je suis vraiment très enthousiasmé, j'ai un peu une voix de. Tu vois,
ah, mais je pense que tu. Alors, ça fait longtemps que t'as pas dû aller à la fête à Neuneu parce que les forains, c'est beaucoup plus trivial. C'est beaucoup plus. Eh, c'est par ici que ça se passe et maintenant les chichis sont à 50%.
À toi, t'as celui qui arrive. Moi, j'ai le plus. On est un bandit comme ça.
Ah ouais,
tu vois, il y a celui-là aussi.
Ça, pour moi, c'est l'animateur Radio 80s.
Ah, c'est vrai que c'est un problème.
Ou le DJ en boîte aussi.
Oui,
tu es immatriculé 74, que tu es actuellement la fourrière. C'est trop tard, il y a actuellement la casse, faut tout vous dire.
Vous êtes en train de me dire qu'il y a déjà un débat sur la tonalité à adopter pour un forain, c'est ça?
Ouais, ou même en radio. C'est vrai que le discours a évolué même dans le ton au fur et à mesure. Ou ça, même, tu vois, tu te souviens les infos dans les années 60, c'était beaucoup. Et hier, un avion a enfin décollé de plus de 2 mètres. C'est une avancée technologique révolutionnaire. Personne ne parle plus comme ça.
Grâce à l'outil radiophonique, le podcast LOL Meet Tender.
Ça serait bien d'avoir une petite annonce comme ça, ça aurait beaucoup de gueule, je crois.
Je pense qu'il parlait comme ça parce qu'il n'y avait pas encore la pénicilline à l'époque. Tu vois, ça a changé beaucoup de choses.
Alors, Dedo, on est vraiment ravis de te recevoir. Vraiment, c'est un plaisir. Surtout, tu viens quasiment après Yacine Bellous.
Eh ben, ça me fait bien plaisir de venir et je suis venu parce que, en toute franchise, je connaissais pas le podcast et que Yacine m'a dit qu'il avait passé un excellent moment. Oui. Et que quand Yacine passait un excellent moment quelque part, j'ai envie de faire la même chose. Je dis, moi aussi, j'ai envie de passer un excellent moment. Cette histoire.
Pourquoi pas moi, bordel?
Les excellents moments, c'est fait pour tout le monde.
Ouais, c'est vrai que la connexion a été très facile. Il m'a suffi d'écrire juste un petit message à Yacine. Il m'a dit, je lui en parlais 5 minutes après. Il m'a dit, bah, Dedo est super chaud. Voilà, quand, où, pourquoi.
Ouais, bah, c'est vrai que. C'est un peu quelque part notre vie de parler à des gens, donc rencontrer d'autres gens pour discuter de sujets dont on n'est pas encore au courant, et ben ça fait du bien.
Ouais. Première question un peu polémique pour démarrer les choses très directement. Hein. Est-ce que tu sais où est Xavier Dupont de Ligonnès, un criminel qui peut aussi être une inspiration pour beaucoup d'humoristes d'ailleurs?
Oui, alors en fait bon c'est une histoire un peu particulière, donc il faut avoir certaines notions physiques, mais il est actuellement dans un trou de ver. Donc qu'est-ce qu'un trou de ver? C'est vraiment une partie de l'espace qui se replie où on peut donc aller plus vite d'un point A à un point B.
D'accord.
Donc lui, il est pile entre le point A et le point B, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à le trouver, quoi. D'accord. C'est-à-dire qu'il est à l'intérieur d'un trou noir, dans un trou noir, dans un autre trou noir. Même avec une lampe torche, franchement, c'est chaud, je jure.
Je crois qu'ils ont pris un cliché d'un trou noir.
Ouais, bah c'est Xavier.
Si jamais ils zooment dedans, il y a.
En fait, si tu zoomes très très très. Ouais. On n'a pas encore les outils nécessaires, c'est ça le problème. Ouais. Quand tu zoomes vraiment à fond, tu le vois en fait en short.
Ouais. Et moi, j'ai une pizza devant Jean-Pierre Foucault ou devant Qui veut gagner des millions par exemple.
Ouais, c'est une possibilité.
Si on zoome bien.
Faut vraiment très bien zoomer, mais ça après, c'est les outils qu'on n'a pas encore. Ça va venir avec la technologie et le fait que bientôt les extraterrestres vont dire qu'ils sont là. Oh, je l'ai dit à voix haute.
Oh putain. On le garde ou on va le garder?
On va le virer. Je veux pas de soucis, virez-le.
On vire. Est-ce que ton apparence, Dedo, conditionne l'image artistique que tu renvoies aux gens? Et pour toi, qu'est-ce que ça dit de l'époque?
Ah bah ouais. C'est, alors ça, c'est une question intéressante. Déjà, pour plusieurs raisons.
Ah bah oui, on commence bien.
Ouais, mais c'est bien, c'est vrai. Déjà, on m'a rarement dit ton apparence, et c'est vrai que c'est bien. C'est quelque part une apparence que tu envoies. Alors déjà, je pense qu'artistiquement, au-delà de l'artistique, d'ailleurs, de ce que t'es dans la vie, t'es tributaire de ton physique. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ce que tu es à travers ton look potentiel ou à travers même ton attitude renvoie une certaine image auprès des gens. Quand t'as un look qui est un peu plus marqué, l'inconscient collectif fait que bah forcément tu peux avoir des idées préconçues sur certaines choses. Moi, par la force des choses, un barbu avec des cheveux longs, ça renvoie à une certaine image qui a pu être un moment mal démocratisé dans les médias. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'amalgames avec oulala les métalleux, oulala les satanistes,
oulala les musulmans aussi.
Et ben bah, en fait même combat. Non, en vrai musulman là c'est plus chaud, c'est dur d'être musulman.
Ouais. Oh, ouais.
Vraiment c'est beaucoup de les gens font des polémiques horribles et il faut les laisser les gens tranquilles quoi qu'il arrive, quelles que soient leurs apparences et vous allez voir, vous allez mieux dormir et ça va faire du bien à tout le monde. Donc ouais, en fait dès que t'es dans l'œil du cyclone, en fait c'est la différence, c'est juste ça, le fait d'être différent fait que on te regarde différemment. Maintenant, le fait d'être différent, ça peut être aussi, en tout cas là, d'un point de vue artistique, ça peut être une force parce que ça te permet de te démarquer d'une certaine masse, on va dire. Et moi, j'en ai jamais joué au départ, c'est-à-dire que quand je suis arrivé, les gens m'ont connu au tout début à travers le Jamel Comedy Club. Donc moi, ça faisait déjà, moi je suis comédien depuis que j'ai 21 ans, le stand-up j'en fais depuis un peu plus de 15 ans. Mais c'est vrai que c'était pas du tout démocratisé auprès du grand public avant cette émission. Et moi, à la base, je suis très fan d'absurde. J'adore les Monty Python,
Eddie Izzard,
voilà toute cette mouvance anglo-saxonne.
Mais tu citais Chris Rock, qui n'est pas un chantre de l'humour absurde.
Bien sûr, non, mais
alors, est-ce que pour le coup, Chris Rock, c'est le côté spectaculaire qui t'intéresse, du coup, le côté véritablement showman, en fait?
Alors, chez Chris Rock, déjà, ça a été les propos qui étaient intéressants, ce qui balançait en termes d'idées dans son stand-up, déjà, qui me parlait spécifiquement, parce que c'était justement relié à une certaine époque et à un certain cadre de vie. Donc ça, il avait pas peur d'aller dans le social par moment, et je trouvais ça assez puissant à l'époque, et c'est ça aussi qui a fait sa différence. Et le côté spectaculaire, moi, je le voyais aussi dans le côté prêcheur qu'il a, c'est-à-dire cette force de parole, le fait d'haranguer vraiment les foules, de répéter les choses plusieurs fois.
L'américaine, c'est
exactement.
L'américaine.
Mais vraiment presque télévangéliste en fait.
Ouais, c'est ça.
Ce côté vraiment, j'ai un propos et je vais l'asséner jusqu'à ce que ça rentre dans vos têtes. Alors c'est pas du lavage de cerveau parce que justement c'était de la critique sociale par rapport à beaucoup de choses et le fait de parler de lui, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est que le stand-up qui parle de soi est quelque chose d'assez puissant. Même si j'adore l'absurde pour le coup, en fait je me situe dans mes influences entre les deux, c'est à dire que moi j'adore Dave Chappelle et je voue un culte monumental au Monty Python.
Alors il y a d'un côté Chris Rock et Dave Chappelle, d'un côté l'absurde et Monty Python. Est-ce que pour toi tu ne le vis pas comme un tiraillement? Est-ce que tu l'as pleinement accepté, ce paradoxe?
Alors je l'ai pleinement accepté, complètement, parce que je trouve que c'est pas un paradoxe dans le sens où on peut tout à fait aimer les carottes ainsi que la viande rouge par exemple. Et de la même manière, je trouve que justement, c'est des composantes qui peuvent faire partie de toi et qui peuvent quelque part constituer ton terreau artistique. Maintenant, ce qui est un peu plus compliqué de mon point de vue, c'est que, et c'est pour ça que du coup, je me situe entre les deux et que mes deux premiers spectacles et le troisième aussi se situent vraiment pile à l'équilibre entre ça, c'est qu'il y a de l'absurde. Et il y a aussi de l'humour noir, et il y a aussi des moments où je parle de moi, et aussi il y a des moments où je vais parler d'actualité ou de faits sociaux. Parce que j'aime cette densité-là, j'aime cette pluralité-là, et j'aime pouvoir parler de tout sans me bloquer sur un contexte particulier. Maintenant, et on en a pris conscience, on est d'autant plus avec Yacine parce qu'on bosse énormément, on se voit beaucoup, l'absurde, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment quelque chose d'ancré dans les mentalités françaises. On n'a pas cette réceptivité-là. C'est pas un truc qui est naturel chez nous, même s'il y a eu des artistes beaucoup plus vieux dans les années, genre Francis Blanche, par exemple, qui maniait un petit peu cet humour-là.
Ou même De Vos, parfois.
Ou De Vos, ouais. À travers le maniement des mots et tout. Mais cet absurde pur et dur, ce surréalisme, en fait, il est très compliqué à imposer en France.
Il est beaucoup plus anglais, en fait, finalement.
Complètement, complètement. C'est vraiment un truc anglo-saxon. Et c'est un truc, je pense que, pour moi, c'est universel. Mais je pars quand même du principe qu'il y a certaines populations qui vont être un peu plus réceptives de par leur histoire, de par leurs faits culturels qui ont fait partie justement de leur sémantique, elles vont avoir peut-être plus de mal avec cet humour-là. Et ça s'impose. Je pense que petit à petit, on peut habituer les gens à ça. Yacine, lui, il y va à 250 milliards de pourcents. Et je trouve ça d'autant plus valeureux parce que c'est qui tout double. Mais par contre, c'est toujours la même chose. Et je pense que c'est quelque chose d'assez prépondérant dans l'artistique. Le but du jeu, je pense que le plus important, c'est pas de plaire au plus grand monde. C'est avant tout de faire quelque chose qui te ressemble, où les gens vont potentiellement se retrouver. Ça va peut-être mettre plus de temps, ça va peut-être attirer moins de gens, mais par contre, ces gens-là, s'ils aiment ce que tu fais, ils vont te suivre jusqu'à la dernière seconde.
Si tu savais à quel point je suis d'accord avec toi.
Alors voilà, bah après, moi, ça me fait plaisir aussi que tu penses la même chose. Ouais. Mais c'est vrai que ça prend plus de temps, c'est plus compliqué. Mais je pense que l'absurde va peut-être se démocratiser dans les esprits, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. De toute façon, le stand-up est un art complètement nouveau en France.
Oui.
Je veux dire, ça a 15 piges max. Aux États-Unis, ça existe depuis les années 50. L'art oratoire, cet art-là, en fait, le simple fait de parler en public avec un micro et de parler tout et de n'importe quoi sans passer par le prisme des sketchs, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps ailleurs, mais c'est nouveau en France. Donc on a du temps à rattraper. Il y a de plus en plus de gens qui arrivent et qui commencent justement à avoir les rouages de ça et qui commencent à l'imposer plus vite aux gens. Les gens commencent à s'habituer à ce qu'est le stand-up et ça va servir tout le monde au fur et à mesure.
Peut-être que je me trompe, hein, mais
je pense.
Peut-être que je me trompe, mais alors je sens dans ton propos une volonté d'aller pleinement vers l'humour absurde, notamment sur scène, mais qu'il y a certaines choses qui te retiennent, notamment son impopularité relative. Et qu'il y a un peu une espèce de... peur est peut-être un mot qui est trop gros, mais peut-être que tu as une certaine angoisse quoi, à vouloir pleinement te plonger dedans.
Je ne sais pas si c'est une angoisse. Je pense que ce n'est pas vraiment un calcul non plus. Parce que... en fait, vu que justement, j'aime beaucoup de choses en termes d'humour, en tout cas, j'aime différents courants, je le ressens pas comme une frustration. C'est-à-dire que je pense que ça me ferait peut-être plaisir de faire une heure complètement absurde, mais ça se trouve, en la faisant, je me dirais, mais j'ai quand même envie d'aller vers d'autres choses,
oui.
j'ai envie de faire du storytelling personnel, ou j'ai envie de rebondir sur quelque chose qui s'est passé et tout. Donc, en fait, quelque part, je pense que là où je me situe, c'est à peu près ma place. C'est-à-dire que le fait d'être au carrefour de beaucoup d'influences et de beaucoup de courants humoristiques, bah, c'est moi. Donc, c'est pas grave. Donc, quelque part, je m'enlève ce poids-là en me disant, si je fais, si on doit parler en mathématiques, si je fais 30% d'absurde, 30% de storytelling et 30% de punchline et 30% de one-line, déjà, ça fait 120%, ce qui prouve à quel point il ne faut pas m'écouter en termes de nombres.
Pas ouf en termes de maths. Déjà.
Voilà, déjà, ça, c'est
moi,
c'est
j'ai 2 sur 20 en bac STG, donc j'ai rien à dire.
Ah, mais déjà, mais oui, t'as quand même fait STG.
Voilà. Oui.
Moi, j'étais en L, donc ouais, c'était vraiment pas mon point fort. Les additions, c'est 2 plus 2, la Pologne, et ouais, après, je galérais un peu. Mais non, je pense que voilà, moi en tout cas, je me sens bien dans le melting pot total de l'humour et j'ai l'impression que à travers mes 2 premiers spectacles et j'espère à travers le 3e, je creuse ce sillon en essayant de plus en plus de me ressembler. Et pour moi, le stand-up, c'est ça. La base, c'est ça, c'est d'essayer d'être le plus proche de ce que t'es dans la vie en étant sur scène. Alors évidemment, ça prend du temps, ça prend du travail, affiner les choses, mais voilà, j'espère tendre de plus en plus vers ça.
On va faire quelque chose que t'aimes pas beaucoup, c'est une raclette. Non, je rigole, on va faire quelque chose que t'aimes pas beaucoup.
J'adore la raclette.
Oui, vraiment, ça aurait été le meilleur moment de ma vie.
Ouais,
si on faisait une raclette là, maintenant. Là.
Si vraiment tu sortais du fromage fondu, je c'est incroyable.
C'est génial.
Mais d'où sortent ces pommes de terre?
C'est le meilleur
c'est
podcast.
Fabuleux.
C'est génial.
C'est le meilleur podcast qui existe
c'est
déjà
vrai,
en plus.
Ouais,
vous auriez dû appeler ça le meilleur podcast parce qu'il y a de la raclette et c'est le meilleur titre de podcast du monde.
Et d'ailleurs, j'allais dire, il y a même un fil rouge puisque c'est le dernier mot qu'a prononcé Tania Dutel dans le podcast d'avant.
Oui.
Comme quoi la raclette nous suit partout.
Oh, c'est incroyable.
Il a une mémoire, ce mec.
Bah oui,
en fait, vous faites une sorte de cadavre exquis d'épisode en épisode.
Alors,
c'est génial.
Tu diras clairement un mot à la fin, on va voir ce qui se passe dans l'épisode d'après.
Ah bah ouais. J'espère que ça sera l'ouverture.
Je te laisse le choisir soigneusement.
C'est notre côté rimbaldien. Alors, pour le coup, on va faire quelque chose que t'aimes pas beaucoup, c'est quelque part un peu schématiser ton œuvre. Premier spectacle, on va dire, qui parlait un peu, en grossissant un peu le trait, de ton apparence, de ce que tu dégageais aux gens.
Ah, tu trouves ?
De ce que les médias disaient de toi. De ce que... Oui, moi, c'est un peu ce que j'ai compris.
Alors, sur le premier spectacle, sur
Prince des Ténèbres.
Sur Prince des Ténèbres,
ouais.
Ah, c'est marrant. Bah, tu vois, comme quoi on ressent pas forcément de la même manière. Le fait, je parle effectivement de mon apparence par rapport aux médias ou par rapport aux gens. Mais en fait, quand tu prends sur à peu près 1h30 de spectacle, si je dis pas de bêtises dans mon souvenir, tout ça tient à peu près en une dizaine ou une douzaine de minutes.
Ouais.
Et le reste, c'est vraiment, ça parle de mythologie grecque, Ça parle de religion, ça parle de beaucoup, beaucoup de
choses. Il y a beaucoup d'influence pop culture. Mais ouais, moi, aussi, ce que j'en retiens, ce que j'ai trouvé le plus sincère et touchant, c'est ton discours sur ce que les gens renvoyaient, en fait.
Ah, bah c'est marrant, bah c'est intéressant, tu vois.
Ouais. Ouais. C'est vrai, ce qui est resté, je pense que ce dont parle Mounir, c'est peut-être tes passages aussi qu'il y avait au Jamel Comedy Club.
Oui, oui, bah là, pour le coup, qui était beaucoup plus estampillé par rapport à ça. Ouais. Mais ce qui était logique, en tout cas. D'autant plus sur le premier passage, ouais. Dans le sens où les gens me connaissaient pas. Et encore une fois, moi, quand à l'époque Kader Aoun m'avait appelé pour me dire écoute, voilà, il y a une émission qui se prépare, on aimerait bien que t'en fasses partie. Il m'avait dit, ce qu'il avait dit à tout le monde, nous, on aimerait bien quelque chose de dans une mouvance assez urbaine. Et moi, j'étais là, putain, moi, j'aime bien le sketch du perroquet. Putain, comment je vais faire pour...
Ça se passe dans la rue.
Voilà, et en même temps, après. J'ai pensé le plus pragmatiquement possible et je me suis dit, mais va vers toi. Et en fait, moi, effectivement, j'ai toujours habité et je continue d'habiter dans le 93. J'ai toujours eu, par moment, forcément, ces confrontations-là, à travers cette différence de physique ou de ce que ça peut renvoyer chez les gens. Les gens ne connaissent pas à travers l'émission. Ça peut être une carte de visite qui est la plus sincère possible, en vrai, parce que c'est toi. Donc, je me suis dit, écoute, ça peut être un axe intéressant pour me présenter, entre guillemets. Et c'est vrai que ce premier passage a été assez marquant pour les gens. Et j'en étais content parce que du coup, ça m'a permis un peu de me faire connaître auprès de ce grand public-là. Mais ça n'a pas été calculé. C'est-à-dire que moi, à aucun moment, je me suis dit, tiens, ça y est, là, c'est bon, j'ai mon idée, donc je vais partir sur... je suis métalleux, je suis hardos dans le 93 et je vais développer ça et c'est bon, ça va cartonner. Et d'autant plus que moi, j'ai déjà eu ces discours-là d'époque, si on doit rentrer dans l'intime artistique. J'ai eu des producteurs à l'époque qui m'avaient approché et qui m'avaient dit « Écoute, développe ça sur une heure, mec. Développe ce personnage. » Je fais des guillemets, c'est des petites antennes de cafard. Antennes de cafard. ce qui veut dire, voilà, ce personnage, mais qui n'en était pas un. Évidemment, tu grossis toujours un peu le trait sur ces passages-là, mais en fait, voilà, je montais pas. Donc, mais on m'a dit, ouais, c'est une porte d'entrée artistique et un angle qui va faire que derrière, ça peut vraiment marcher très fort. Et je l'ai entendu, je l'ai digéré, et puis très rapidement, je me suis dit, mais ça m'intéresse pas de faire une heure de ça. Ça m'intéresse vraiment pas. Mais de la même manière que ça m'intéresse pas de faire une heure sur les girafes en milieu sauvage. J'ai envie de pouvoir parler de tout et n'importe quoi, en fait. Parce que ce qui me ressemble, c'est justement ça. J'aime autant le cinéma que j'ai une passion pour le pain.
Ça, on va y venir après,
Donc, ça me ressemble plus.
D'ailleurs.
J'essaie de faire d'autres choses du mieux que je peux. Et donc, voilà, je me suis dit, non, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie d'en parler parce que ça m'intéresse d'en parler. Mais très vite, je me suis émancipé de ça. Et dans le deuxième spectacle, par exemple, je ne parle plus de ça. Je parle d'un milliard de choses, mais pas forcément de ça. Je parle de la création du langage à la préhistoire. Je parle de cinéma un peu plus profondément. Je parle de relations humaines. Mais je parle plus de ça. Et c'est pas grave. Et de la même manière, si je dois faire un parallèle avec la plus grande humilité du monde, quand Eddie Izzard, qui est travesti sur scène et qui est travesti dans la vie, parle de son travestissement, il en parle pendant un moment dans un spectacle, pendant 5-10 minutes, puis après, il parle d'autre chose, et les gens oublient qu'ils sont en train de voir un artiste qui est travesti devant eux. On oublie que le mec, il est en jupe, il est en botte, parce que ce qui nous intéresse, c'est les propos.
Exactement, j'allais dire, c'est ça qui est puissant dans le stand-up, c'est que le langage compte énormément, en fait. C'est un des métiers où le langage compte le plus.
Bien sûr, parce que c'est ce qui te permet de transmettre des idées qui sont toujours ponctués par des choses marrantes, mais je pense qu'on est beaucoup à quelque part vouloir transmettre des idées, même si parfois l'idée elle est absurde, tu vois, même si on peut se dire moi dans le troisième spectacle je me dis mais comment c'est possible qu'il y ait autant de miel industriel et qu'il y ait si peu d'apiculteurs dans les salles. C'est une idée complètement absurde en soi, mais j'ai envie d'en parler parce que ça me fait marrer. Et c'est vrai qu'une idée quelle qu'elle soit, si elle est ponctuée par des choses marrantes, tu vas avoir plus de facilité à pouvoir toucher les gens. Et le but du jeu, c'est de transmettre. C'est juste de transmettre quelque chose. Une histoire, une pensée, une réflexion, et rien de plus. Et y a pas... Et évidemment, on veut faire marrer les gens. On veut le faire, mais le but, c'est vraiment de créer une connexion, en tout cas pour moi, c'est de créer une connexion avec les gens. Donc, j'ai pas envie de me travestir d'une mauvaise manière et de faire, pour revenir à ce que tu disais, une heure de ah bah dis donc, quand t'es métalleux, c'est galère de
c'est
faire
pas facile,
ça.
Ouais. Ouais.
C'est ça m'amuse pas. Alors, ouais, effectivement, peut-être que ça m'aurait permis de jouer dans des salles encore plus grandes, mais je préfère être cohérent avec ce que je suis et d'avoir un public qui respecte cette honnêteté-là et qui, j'espère, rigole malgré tout et apprécie mon travail.
Dedo, en off, tu me disais, j'ai beaucoup de choses à dire.
J'espère que tu vas pas dire un truc particulier.
Tu me disais que t'avais beaucoup de choses à dire. Transition habile avec ma question suivante qui arrive maintenant. Toi aussi, tu faisais de la radio il y a une dizaine d'années avec Yacine justement et Shirley.
Ouais.
C'est en pleine période du Jamel Comedy Club, mm-hmm, pleine période de ton éclosion. J'aimerais savoir ce que tu retiens de l'expérience radio et ce que tu retiens de l'expérience Jamel Comedy Club, du coup.
Alors déjà radio, on va le faire dans l'ordre. Ouais. Radio, c'était une expérience fantastique. Pour de vrai, j'ai adoré ça parce que ça devenait un autre exercice, parce que le Comedy Club Live, donc qui était le nom de l'émission qu'on construisait à l'époque, c'était un artiste musical, c'était une interview d'un invité et c'était 40 minutes sur l'heure de matériel marrant. On devait faire des... On commentait des infos, des fausses infos.
Il y avait
on
faisait... des grands combats aussi. Il y avait des combats.
Il y avait des. Alors voilà, il y avait un truc qui s'appelait le Crazy Warrior Tournament. J'ai plus le titre exact parce qu'il dure 8 heures exactement. et c'était très absurde, ça, ouais, aussi. On faisait des combats Pac-Man contre Jésus.
Incroyable.
Là, pour le coup, c'était justement cette mouvance-là. Et c'est ce qui me fait regretter un peu cette émission, c'est qu'elle était. Elle était assez folle justement dans ce contenu-là parce qu'on pouvait se permettre d'aller très loin. On n'avait pas de barrière artistique en nous disant les gars faites des trucs un peu carrés et tout. Ouais. On nous laissait vraiment les coups des franches pour faire tout ce qu'on veut. On avait le director's cut et ça c'était génial. Et on faisait aussi avec Yacine un truc qui s'appelait les interviews impossibles, qui étaient des interviews complètement absurdes où donc on alternait soit un coup c'était moi l'intervieweur, un coup c'était Yacine.
Il y avait le gars
coup.
Du futur.
Il y avait aussi ça. Il y avait Johnny 3.0 qui était un intervenant qui était dans le futur et qui commentait justement ce qui se passait dans une centaine d'années. Donc voilà, il y avait plein de choses folles. Dans les interviews impossibles, on avait interviewé à l'époque la main de Thierry Henry après qu'il y ait eu, ce pénalty un peu litigieux. On a la chaussure lancée
George Bush.
Magnifique.
Donc voilà, c'était des trucs, la flamme olympique. Enfin, ouais. C'était des choses très surréalistes pour
génial.
Le coup. Et surtout, moi, ce qui m'a vraiment fait triper, c'est que cette émission, elle était enregistrée en public. Et que pour moi, c'est indispensable. On devrait retourner de plus en plus à ça, à avoir des émissions... tourner en public avec les rires des gens qui viennent ponctuer ce qui se passe, parce que c'est la meilleure façon justement de donner du plaisir à l'auditeur ou au spectateur, parce que on partage ce rire-là avec le moment et y a une sorte de, on en parlait tout à l'heure, mais c'est un truc de communauté, c'est un truc qui rassemble les gens et c'est toujours un peu dommage de voir des émissions qui sont, en tout cas en France, quand on essaye de faire des émissions humoristiques, il n'y a souvent pas de public. Soit c'est des sketchs tournés, et c'est très bien malgré tout, mais on devrait pouvoir retourner à ce qu'on fait les nuls l'émission à l'époque,
oui,
qui était une sorte de Saturday Night Live inspiré. Hein,
c'est très assumé. Ouais.
C'est complètement assumé. Et ça manque, je trouve que ça manque, cette émission, de faire une sorte de sketch show qui pourrait justement redonner un petit peu ce goût d'époque. Et donc cette émission, c'était un an... assez folle parce que toutes les semaines, on devait construire ces 40 minutes de matériel marrant. Et en fait, au bout d'un moment, tu prends le pli, ça devient une mécanique et tu te rends compte que tu peux le faire. Au départ, c'est abyssal de frayeur.
Ouais.
Et puis après, tu te dis, on y arrive.
Ouais.
Et surtout.
Et il y a un truc qui se passe, quoi.
Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Et avoir ce retour-là des gens chaque semaine, c'était quelque chose de hyper, hyper gratifiant et épanouissant. Et ça nous manque. Des fois, on en reparle, même avec Navo, avec Yacine. On se disait, putain, ce serait bien de faire une émission de radio. À l'époque, c'était sur le Move.
Ouais.
Oui. C'était diffusé le samedi à 11h et rediffusé le dimanche, je crois. Mais il n'y avait pas encore ces possibilités de réécouter en podcast. Ou... C'était ouais. 2009, si je ne dis pas de conneries.
C'est, bon, c'est ce que j'allais demander. C'est quand même galère à retrouver.
Je crois, ouais. On en a posté quelques-unes sur YouTube,
cool.
Des best-of.
Trop bien. Ouais. Et moi, ce que j'allais dire aux gens, si jamais ils veulent écouter cette émission, parce qu'on en parle depuis longtemps, et c'est vraiment très, très drôle. Moi, j'adorais ça.
Ah, c'est gentil.
Y a... Vous l'avez refait pour un truc qui s'appelait la Nuit Originale.
Tout à fait.
C'est un truc que je suis. C'est un gars qui fait des podcasts, tout ça, et qui a fait une nuit où il invite plein de gens d'internet et des humoristes aussi, enfin plein de gens tout court. Et vous l'avez refait avec Yacine. Je vous invite à. On mettra le lien dans la description. Et c'est la première fois que je dis ça dans ce podcast. Je pense que ça peut se célébrer.
Eh ben, ça
bravo
me fait plaisir.
et pour l'intervention, mais alors vraiment de maître.
Et c'est ouais, vrai qu'on avait refait un Johnny 3.0, donc avec cet intervenant
c'était
du futur.
Génial.
Et je me souviens qu'on avait fait une autre interview impossible, et c'était les cheveux de Donald Trump.
Voilà. Okay.
On interviewait les cheveux de Donald Trump.
Ah, je m'en rappelle plus.
C'est quoi les questions que vous lui posez du coup?
Bah, comment ça se passe pour
bah ouais,
toi? Comment tu vis ces bouleversements? Et donc voilà, il disait, bah, je laisse le plaisir aux gens de découvrir.
Il faut aller voir ça, c'est génial, moi j'adore.
Ils en ont envie.
Ok, cool. Tu me donnes des idées hein, pour le podcast en public. Hein. On a envie de le faire.
Ah, mais faites-le, voilà. Mais il y a tellement
c'est
de podcasts.
Ça doit être génial.
C'est très cool.
Tu prends au revoir à jamais. À bientôt,
au revoir.
À bientôt, au revoir avec Sophie Marie Larouille.
Alors, c'est pas complètement fou ce que je dis, au revoir à jamais. C'est un film avec Samuel L. Jackson et Gina Davis. Voilà, de Rini Harlin, dont on reparlait il y a pas très longtemps. Donc c'est pour ça que je dis ça. Je suis pas complètement incohérent. Mais à bientôt de te revoir. Ouais. Voilà, qui est un podcast animé par Sophie Marie Larouille avec un invité qui fait en public aussi la nouvelle scène. Il est un podcast très marrant. On voit le vlogcast là a joué. C'est fait au Bataclan en public. Et ça
j'y étais hier
rapidement.
Soir. C'était trop.
C'était bien.
Bah, quand tu parlais d'émissions en public et tout, ça rigolait. Je pensais directement à ça.
Mais évidemment, évidemment. Et je pense que les gens ont envie de ça. Les gens ont envie de. D'autant plus quand ils aiment une émission. Ils ont envie de la partager avec d'autres gens. On parlait de ça encore hors antenne, en off, on parlait de ce rendez-vous. Je pense que les gens ont envie de récupérer des rendez-vous.
Oui, des grandes messes en fait.
Ouais, de sentir. Il n'y a rien de plus agréable. C'est pour ça que je pense que le cinéma continue d'être là, même si une place coûte désormais 255 euros. C'est qu'on a envie... On a envie de partager une expérience commune avec les gens. Et on a envie de vibrer, on a envie de rire avec des gens autour de soi, on a envie d'avoir peur avec des gens autour de soi. Et que même si maintenant l'accessibilité totale de n'importe quel contenu via les médias de streaming, Netflix, tout ça, font que tu peux tout mater chez toi tranquille, eh ben, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que de vivre une expérience humaine.
Oui, il y a une petite communion, ouais, j'avoue.
Ouais, je pense. Et c'est pour ça aussi que le spectacle vivant perdure aussi. Je pense que les gens ont envie de voir quelque chose en face d'eux, de sentir en fait une présence et d'avoir cette possibilité de se dire « je vis un moment unique ».
Je pense que les questions que je vais te poser après sur Twitch vont être très intéressantes en termes de réponses.
Méfie-toi, parce que là, tu t'es mis la pression
ouais,
tout seul.
Seul ouais, mais j'aime ça. J'aime bien.
Qu'il va répondre.
Parce que si jamais.
Il va juste répondre ça, peut-être.
Ça se trouve, il va juste dire est-ce que tu trouves pas que Twitch, ça rime avec sandwich? Et je vais être là. Après, ouais, c'est vrai, ouais.
C'est pas faux, ouais.
C'était... Alors, hein, je t'avais dit quoi?
LOL.
Alors, boum, c'est ton. Et j'avais dit, hein. J'avais
avec
dit,
des
c'est
énormes rires enregistrés qu'on mettra en post-prod et ça va être là.
Ça, c'est moderne.
Ça, c'est beau. Ton portrait libé est beaucoup trop court, tu sais ça?
Bah écoute, c'est pas de ma faute, hein. Moi si j'avais pu j'aurais fait 400 pages.
Je suis à deux doigts d'appeler la journaliste pour lui dire mais pourquoi vous avez fait aussi court bordel.
On l'appelle tout de suite en direct.
C'est le principe du portrait, c'est quand
vas-y
même
on l'appelle, allons au sein de notre numéro de téléphone, je vais être surpris. Non, ton portrait d'IB est beaucoup trop court, mais il y a suffisamment d'informations pour dépeindre quelqu'un de paradoxal, de, je cite, trash mais mignon. Quelque chose qu'on ressent dans toute ton œuvre et notamment dans ton premier spectacle, on en parlait avant. On sent que parfois tu as envie de te mettre en colère, mais que ta gentillesse ou peut-être ta compassion t'en empêche. Est-ce que je me trompe?
Ah, je sais pas. C'est une bonne question, tiens. C'est ce que t'as ressenti, en tout cas?
Oui.
Tu veux... Alors,
Parce qu'en fait, moi, quand je m'intéresse à un humoriste, je m'intéresse pas à ce qu'il fait, je m'intéresse aussi au regard qu'il lance et les attitudes qu'il a sur scène et la façon qu'il a d'énoncer son propos, par exemple, tu vois. Il y a limite plus d'informations dans ça.
Très vrai,
que dans une vanne, tu vois.
Complètement, complètement. Mais de toute façon, je pense que quelque part, ton langage corporel et même ta façon de dire les choses, c'est ce qui va
déjà
te définir.
Si je te montre un croix gammée sur mon bras droit, par exemple, tu vois.
Bah, je vais dire, bah écoute, on a fait une série qui s'appelle Inside Jamel Comedy Club où on m'avait.
Oui, voilà, c'est trop bien.
Pour ceux qui connaissent pas, c'était une série, un mockumentary, c'est-à-dire un truc dans l'esprit de The Office ou Parks and Recreation, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire un faux docu sur donc un making of de la tournée de la troupe du Jamel Comedy Club, la première. Et en fait, donc, c'est de la fiction et tous les persos sont abominables et horribles. Donc voilà, ça va du racisme notoire à de la dégueulasserie avec des minorités. Et moi, à un moment, mon perso, à travers du chahut, se retrouve à avoir son t-shirt qui s'enlève et j'ai une croix gammée sur le torse, mais qui ferait passer celle d'American History X pour un tatouage malabar. Vraiment, c'est démesuré. Et c'était, moi, quand on avait lu ça et quand on l'avait tourné, j'avais dit, les gars, c'est super marrant hein, l'idée et tout, mais si je me fais planter bêtement, vraiment, je vais vous détester parce que...
Tout ce ça va pas être cool si je me fais planter, les gars.
Faire des bulles rouges à travers les poumons, c'est pas la notion première du physique, normalement.
Mais c'est légendaire, c'est comme Greatest Hits. Enfin, c'est resté
Greatest Hits
avec VDB.
Effectivement, cette fausse interview...
Cette scène, elle est restée, c'est trop légendaire. Quoi.
Thomas VDB, qui faisait un journaliste spécialisé justement rock, vient m'interviewer. Il me demande quel est votre album préféré d'ACDC. Et je réponds après une réflexion assez puissante, Greatest Hits. Voilà. Et il a dit mais l'album non le ouais l'album quoi et c'est effectivement on continue de me parler mais c'est une scène très très bien écrite et très marrante mais et donc cette croix gammée moi je me souviens à l'époque Parce qu'en en fait, on enchaînait un tournage le lendemain, enfin, une autre scène, et la maquilleuse m'avait dit, écoute, vraiment, là, ça, c'est peut-être un peu chiant, mais est-ce que tu peux la garder? Comme wow. ça, on n'a pas à la refaire, sinon, parce qu'après, il faut les raccords et tout. Et moi, j'étais là, écoute, franchement, ok, si c'est plus simple pour toi. Et en repartant, je me disais, eh, là, si j'ai un accident de bagnole, si je me fais shooter et que je tombe par terre, et que d'un coup, il y a les flics qui arrivent et qu'on commence à ouvrir mon... Ouais. Ils disaient, ah, je suis dans la merde.
C'est
et vraiment, ça se trouve, ils vont dire, hey, il va mal, hey, vite, enlevez ses fringues.
Oh, bon,
non,
ouais,
non,
c'est pas
mort, il est mort.
Ouais,
il est mort. Ben non, regardez, il a l'air de. Non, non, il est mort, vraiment, c'est les derniers soubresauts, mais il est mort.
On boit une bière.
Donc voilà, j'aurais pas peur. Je sais même plus pourquoi tu disais ça au début.
Pardon. Rapport à la croix gammée que Mounir a. Non,
oui, voilà, effectivement. Non, je disais, on sent que parfois, t'as envie de te mettre en colère, mais que ta gentillesse ou peut-être ta compassion t'empêche de te mettre véritablement en colère, notamment sur scène, mais ça peut être aussi le cas dans la vraie vie.
Dans la vraie vie, peut-être. Du coup, bah, peut-être que du coup, sur scène, ce sentiment que tu as eu, il est peut-être légitime à travers ton prisme. Je sais pas. Moi, je pense que les moments de colère que j'ai sur scène, ils sont sincères. Après, ils pourraient être peut-être un peu plus nombreux, voilà, sur certaines choses, oui, effectivement. Mais je pense que ça se joue déjà à ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce que j'aime dans le stand-up, c'est les contrastes et les changements de rythme. Donc, les changements de rythme, ça fait aussi partie des changements d'humeur. Pour les gens qui connaissent un peu le stand-up ou qui connaissent pas d'ailleurs, il y a quelqu'un qui s'appelle Sam Kinison, qui est un très grand nom du stand-up américain, qui basait énormément son delivery, sa façon d'être sur la colère. Il était très en colère. Et là, on parlait de quelqu'un qui était un peu Chris Rock. On disait qu'il était un peu prêcheur.
Ouais.
Mec, là, c'est plus de la prêche. C'est, ouais, un autre délire. C'est, ouais, c'est de la prêche qui te prend la gorge et...
Un peu à la Bill Bleur ou encore
Ah, bien pire.
Ah ouais.
Ah, mais
je connais pas du tout pour le coup.
Bah, tapez si, ouais, vous avez l'occasion. Ouais, Sam, ouais, Kinison.
Ouais.
Vraiment là. Il est très connu pour avoir des cris. Il est connu, d'accord, pour des cris de. Des cris de colère.
Ok, d'accord.
Ils l'ont défini à un moment. Et c'est vraiment un artiste que je trouve très très marrant. Et pareil, qui a énormément de propos au-delà de la faconde qui s'est construite par rapport à cette humeur-là. Mais par contre, c'est un peu, du coup, au bout d'un moment, linéaire dans l'humeur. C'est-à-dire que tu vois une heure de quelqu'un qui est en colère.
Un mec en colère, ouais.
Et moi, ce que j'aime, c'est, je sais pas, 5 minutes de colère. Après 5 minutes de sincérité. Après 5 minutes de trucs absurdes. Après 5 minutes de trucs un peu touchants. J'aime les variations, j'aime les changements, en fait. J'aime les comme dans la vie, en fait. C'est ça que je trouve agréable, c'est de pas avoir une routine d'ambiance et de pouvoir justement amener ça. Et je le fais un peu sciemment au fur et à mesure. J'essaye justement d'avoir de la diversité, un, dans les propos et deux, dans l'humeur générale. Donc bah ouais, après je me pose pas sur quelque chose en particulier, et voilà. Mais après, que tu ressentes le fait que je pourrais être plus en colère, c'est intéressant. Si tu veux, on s'embrouille après l'émission.
Mais c'est exactement ce que tu allais te proposer.
Mais je comprends, cool. Bah, j'ai, ouais, bien compris.
Mais en fait, on se bat souvent après les, on cherche vraiment le,
ah oui,
le,
ça fait partie du podcast.
Tu sais, l'époque est clairement à l'octogone, donc si jamais tu veux qu'on fasse
moi j'aime ça.
Si tu veux qu'on fasse qu'on s'attrape un petit peu, ouais, dans la figure géométrique de ton choix, hein, je t'imposerai. On le fait avec plaisir, vraiment, si ça peut aider. Ça peut t'éviter de payer 80 balles de psy toutes les semaines. Franchement, je peux sauver des vies, hein, ça me fait plaisir.
On est plus sur des parallépipèdes. Bon, après,
franchement, je vous suis, moi.
Parallépipèdes, c'est très très bien. Est-ce que toutes les références pop culture, comme le film Massacre à la tronçonneuse, qui est un de tes films préférés,
oui,
le rock et même les dessins animés, parce que tu fais de la BD, on en parlera après, mm-hmm, nourrissent ton écriture. Est-ce que tout ça, en fait, ça, oui, ça influence en fait ton œuvre globalement.
Je pense que, encore une fois, c'est pas fait de c'est pas fait sciemment, parce qu'on se dit pas, tiens, je vais faire ça, ça et ça, comme ça, ça va nourrir au maximum ce que je vais avoir envie de dire. Mais ça se fait par la force des choses, comme n'importe qui. C'est-à-dire qu'à un moment, tu t'intéresses à certains médias ou à certains médiums, tout simplement. Et du coup, bah, ça te nourrit forcément, parce que tu absorbes un petit peu, je pense, on absorbe un petit peu tout ce qu'on voit et tout ce qu'on lit, et ça devient tout ce qu'on est au fur et à mesure.
Oui.
Donc bah ouais, je pense que ça joue forcément. Donc oui, j'ai toujours aimé la BD franco-belge en général, et les comics un peu plus aussi. C'est quelque chose dont vraiment j'étais tombé dedans à l'adolescence. Là, j'ai un peu moins de temps. C'est horrible, parce qu'en fait, c'est le temps qui t'empêche de pouvoir faire les choses, en tout cas au rythme et à la fréquence que tu aimerais. C'est dur de tout faire. Moi, je suis dingue de cinéma. C'est vraiment ma passion première avant tout le reste. Je suis tombé dans le cinéma. Mon premier choc cinématographique, c'était Freaks de Todd Browning quand j'avais 9 ans. Ça m'a certainement ouvert à beaucoup, beaucoup d'univers et ça m'a un peu défini par la suite. Freaks de Todd Browning, c'est un film qui parle d'une troupe de...
Plutôt dérangeant, j'allais dire quand même.
Ouais, un peu, ouais. Mais c'est un film que j'aurais jamais dû voir à cet âge-là.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais.
Et en même temps, je suis très content de l'avoir vu.
De l'avoir vu.
Donc c'est toujours pareil, mais il ne faut pas voir certaines choses parce qu'après ça va t'influencer et tu te dis, moi ça m'a peut-être influencé, ça se trouve là en ce moment, je serais peut-être en train de faire du water polo en CFA. Alors je respecte ces gens-là,
rien contre le water polo, vraiment.
Évidemment rien non plus, et il y a des professionnels et c'est très bien, mais je me sens un peu plus en accord avec ce que je suis par rapport au stand-up et au métier de comédien en tout cas. Mais je pense que ça te nourrit artistiquement et que du coup c'est des choses en plus dont tu as envie de parler sur scène. Ça te permet de plus t'absorbes de sujets, plus t'as potentiellement la possibilité d'en parler sur scène. Donc du coup, ça fait que peut-être que t'as des choses à dire et que c'est le plus important. C'est les gens se rendent pas compte à quel point le poids il est là. S'il doit y avoir un poids, c'est de se dire, est-ce que je vais intéresser les gens? Est-ce que je vais trouver des sujets qui vont être suffisamment intéressants? En tout cas pour moi, pour que je puisse être suffisamment intéressant pour eux. Et ça, c'est une angoisse. Ça, c'est une vraie angoisse. Après, je ne sais pas si elle est inhérente à tous les gens qui font du stand-up, mais moi, je sais que je suis assez guidé par cette mini-crainte de décevoir et de se dire, est-ce que c'est suffisamment intéressant? Est-ce que c'est suffisamment drôle? Je pense qu'on est, on est beaucoup à avoir cette angoisse de se dire, est-ce que les gens ne vont pas sortir en disant « ouais ». Oui, d'accord, c'est bien, mais j'aurais aimé qu'il me parle d'autre chose et tout. Et c'est le plus dur. Moi, en tout cas, si c'est personnel, c'est vraiment le plus dur. Moi je me mets énormément de pression pour me dire, j'espère que les gens vont passer un bon moment, j'espère que je suis suffisamment bon pour être légitime par rapport à tout ça. On a énormément de remises en question et je pense que c'est ça aussi qui te fait avancer en tant qu'artiste de stand-up ou en tant qu'être humain en général. Mais c'est pas simple, c'est pas simple. On a des métiers compliqués par rapport à ça.
Il y a un autre sujet d'étude que tu trouves très intéressant, que tu dis en tout cas, qui était très intéressant à aborder, c'est la vie sans fin. Le fait de chercher à vivre le plus longtemps possible, tu disais ça il y a quelques années dans une interview sur LCI, interview qui par ailleurs j'ai trouvé très convenue en fait, hein. Je pense que l'exercice t'a pas particulièrement plu, mais cette phrase avait véritablement attiré mon attention. Qu'est-ce que tu voulais dire par là, en fait?
En fait, je sais plus exactement quel était le sujet de départ, mais je crois en tout cas que l'époque va de plus en plus à vouloir prolonger la vie. Donc, même technologiquement et scientifiquement, j'ai l'impression que des travaux se font de plus en plus pour prolonger l'espérance de vie.
Tu parles du transhumanisme?
Complètement.
C'est ça.
Et du coup, je me dis à quel point c'est quelque chose qui est... C'est fou qu'on ait cette obsession-là, quelque part, parce que tu te dis, mais si on prolonge, là ça va être un débat un peu philosophique, hein, toute proportion gardée, mais si on prolonge la vie de plus en plus, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va avoir le moteur suffisant pour peut-être créer des choses, ou peut-être juste avoir envie de faire, tout simplement? Parce que si tu sais que tu vis 700 ans, moi je suis désolé, hein, je vis 700 ans, je me dis, franchement, je vais kiffer 650, après on verra sur les dernières.
Mais, moi je vais me grouiller quoi. Mais
tu peux prendre ton temps et tout. Après, il faut pouvoir le faire financièrement, mais ça va savoir. Ça se trouve, à un moment, si on peut prolonger la vie de 700 ans, tout le monde aura un peu de thunes et puis voilà, tu peux kiffer. Mais je sais pas si
tu
c'est
kiffant. Tu prends un crédit chez Conforama.
Voilà, et après tu glisses à peu près sur ça. Mais est-ce que c'est vraiment épanouissant? Alors que justement, c'est tout le paradoxe de l'existence. C'est de se dire... à un moment ça s'arrête, donc sachant ça, il faut faire des trucs, sinon tu vas peut-être te dire, ah si j'avais su, et vivre sous les regrets, c'est la pire des choses possibles. Y a des gens qui meurent de ça, qui meurent de si j'avais pu, si j'avais pris le temps, si j'avais eu les balls, et donc c'est le moteur de la vie, c'est la mort. Ce qui est déjà un paradoxe en soi assez fou, quoi. Mais en vrai il y a Si on se met à avoir du recul sur tout ça, je peux comprendre que des gens paniquent. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de sens à tout ça, en vrai. On est là, on ne sait pas pourquoi on est là, on sait qu'à un moment, ça s'arrête. Si vraiment tu prends ça avec détachement, tu peux te dire, mais franchement, dans ces cas-là, moi, je kiffe jusqu'à 20 piges et après, j'arrête. Et ce n'est pas des pensées qu'il faut avoir, absolument, mais tu te dis, c'est quelque part effrayant. C'est quelque part assez effrayant, ce concept de vie, Tout simplement.
Tu te le crées, le sens. Je pense que c'est ça, en fait, ouais. Pour toi-même, en fait, pour aller bien, finalement.
Bah voilà, à un moment, tu te crées ton sens. Donc, ton sens, ça peut être soit fonder une famille, soit justement essayer de faire aboutir des envies, quelles qu'elles soient. Alors, elles peuvent être artistiques ou elles peuvent être de création, j'en sais rien, moi, faire une maison, monter un commerce, ce que tu veux. En fait, le sens de la vie, c'est c'est le sens que tu veux lui donner. En fait, le but, je pense que c'est d'essayer d'être le plus content possible.
Oui, c'est ça, ouais. Et c'est un maximum de choses dans un temps...
Dans un temps imparti, quoi.
Ouais, c'est ça.
Mais, le fait... Mais je pense, par contre, qu'effectivement, le moteur de tout ça, c'est le fait de savoir qu'à un moment, stop, c'est terminé. Donc, cette question de transhumanisme, elle est séduisante pour beaucoup de gens, mais moi, je suis là, mais ouais. Personne n'a vu Highlander. Franchement, il est dégoûté. Il voit tous les gens mourir autour de lui.
Enfer, ouais.
Et à un moment, il se fait yesh.
Il est tout ça.
Oh là là, il est là. Pff,
j'avoue,
c'est
quand
toujours
t'as fait,
pareil.
Quand t'as fait le tour de Netflix, au bout d'un moment...
C'est fini, ok, ouais. Il y aura des séries tout le temps. Là, franchement, il faudrait 17 vies pour tout voir.
Clairement.
Mais est-ce que j'ai envie de tout voir? Est-ce que j'ai envie de voir Riverdale? Personne n'a envie de voir Riverdale. Personne. Ça veut dire qu'à un moment, si tu vis suffisamment longtemps, tu vas être là. Bon, bah, je vais devoir mater Riverdale.
Il reste plus que ça.
Bah, je me flingue, franchement. Ça, non, j'ai pas envie.
Ce moment où t'arrives à la fin du catalogue Netflix.
Si tu te rends compte, quand tu commences vraiment à te dire, bah, tu sais quoi, je vais remater les deux saisons de Marseille. Mais non, c'est la fin. C'est la fin.
Personne
gars.
N'a jamais prononcé ces phrases.
Ouais, c'est vrai qu'il est assez horrible d'ailleurs. On enregistre cette émission le 22 octobre 2019. Et hier soir, le 21 octobre, donc, tu étais au podcast de Julien Josselin sur Twitch. Raphaël, rappelle-nous le nom.
Askip. Génial émission.
Ouais. On salue, on espère qu'on fera une collaboration. Bon, pourquoi pas sur Twitch. Bon, ça, on verra bien. Ce qui indique que tu es là où il faut être, parce que Twitch, moi personnellement, j'en suis convaincu, je pense que toi aussi, c'est une nouvelle chaîne, j'allais dire de télé, mais pas que, à part entière, du coup. C'est un média en soi, quoi.
Ouais, c'est un nouveau médium qui est plus si nouveau que ça. Je sais pas, ça doit avoir 5 ou 6 ans déjà d'existence.
Ouais, facile, ouais.
Ouais, mais je sais pas exactement. Avant, c'était plutôt de niche, quoi.
Oui, c'est vrai.
Pas beaucoup de gens connaissaient. Et là, je pense que ça a pris une explosion de dingue avec le
ça grossit de plus en plus. Et surtout, je pense que ça s'ouvre justement à d'autres possibilités de création. Le Twitch, c'est à la base un canal de diffusion de gaming, principalement. Donc voilà, des gens qui jouent à des jeux, qui en parlent, qui commentent et tout. Mais ça s'ouvre de plus en plus à des émissions de tout type. Donc effectivement des choses qui peuvent s'apparenter à juste une émission d'interview, un late show ou j'en sais rien, peut-être que ça se trouve ça s'ouvrira à des émissions de cuisine, de confection d'origami.
Ça serait génial,
rien,
ça serait trop génial.
Bah ouais, après je sais pas s'il y aurait du monde, c'est de la niche hein, confection d'origami, mais va savoir.
Ouais.
Et ce qui est intéressant c'est que justement on peut se dire, tiens c'est une nouvelle façon de créer du contenu, tiens c'est une nouvelle façon de faire des émissions. Et je pense que c'est
avec rien en plus.
Avec rien, avec très peu de moyens, avec une possibilité justement, en tout cas par rapport à Askip, je sais pas comment se passe pour les autres émissions, mais il y a une possibilité de faire l'équivalent d'une sorte de cagnotte litchi sur le moment. C'est-à-dire qu'on peut contribuer financièrement à l'émission pour continuer de la faire exister, ou juste parce qu'on se dit, bah voilà, j'ai passé un bon moment, je file 2 balles, j'en sais rien. Et du coup, ça permet de donner l'envie de continuer et de pouvoir faire en sorte de peut-être potentiellement payer un peu les gens et qu'ils puissent continuer de faire ça.
Ça, c'est sur le côté purement structurel, mais il y a aussi le même... Je sais que ça tient beaucoup à cœur à Mounir et puis de toute façon même à tout le monde. Il y a eu The Event aussi il y a pas longtemps, ça c'est un truc de taré où tu sais t'as plein de Twitchers qui ont récolté de l'argent pour l'instant du pasteur.
Bah plus de 3 millions si je dis pas de bêtises, c'est incroyable.
Et grâce à Twitch du coup c'est...
Mais c'est fabuleux, c'est fabuleux parce qu'effectivement sans ce canal là ça aurait peut-être pas eu lieu. Et surtout on se rend compte que c'est des gens qu'on réduit souvent à des petits amuseurs ou des gens, c'est bien rigolo leur délire de jeux vidéo mais ça met 2 minutes. Mais les gars, ils ont généré 3 millions pour l'Institut Pasteur. Donc, c'est assez symptomatique de l'époque. On a envie de réduire beaucoup de gens à... Et les télés font un peu ça, malheureusement. Elles voient un peu... en tout cas, certains dirigeants voient un peu YouTube comme une sorte de mini plateforme. Enfin, c'est pas de la télé, mais ils se rendent pas compte à quel point YouTube, c'est quelque chose d'énormissime en termes de contenu.
De puissant,
et que les gens, justement, maintenant, vont de plus en plus vers ce canal-là parce qu'ils peuvent avoir accès à un contenu qui leur parle à 200%. Ils peuvent choisir le moment où ils les regardent. Et les télés devraient s'en inspirer et avoir, justement, moins de condescendance par rapport à ce médium.
Complètement.
Parce que justement, c'est l'avenir et que ça sait se réinventer très rapidement, alors que la télé... Eh ben, je suis désolé, mais elle est en fauteuil roulant là actuellement.
Ouais.
Avec,
Moi, je te fais bouffer en fait, clairement, par Twitch, Netflix, tout ça.
Ouais. Alors après, ça continue de faire des gros scores parce qu'il y a malgré tout une tranche de la population qui continue de vouloir garder ce rendez-vous-là, mais c'est une population qui est un peu vieillissante. Et la télé devrait je pense, en tout cas de mon point de vue, continuer de satisfaire cette tranche de population-là, mais tout en essayant aussi de faire plaisir et de donner du contenu à des gens plus jeunes, des gens comme nous qui ont envie de voir des choses différentes, plutôt que de les regarder de haut en disant « Oui, non, mais enfin, YouTube, là, leur petit truc de tout, bah voilà. Bah, » Déjà, générer 3 millions pour l'Institut Pasteur.
Bah, comme on le disait en off, il y a quand même certaines personnes de la télé, dont Mouloud Achour de
Bien
Click,
sûr, Click, évidemment.
Quand non, même mais... ont compris qu'il faut un peu aller sur YouTube aussi.
Exactement. Mais évidemment que je ne suis pas en train de faire un amalgame sur tout ce que fait la télé pourri et vieillissant. Et Mouloud Achour en est un parfait exemple avec Click, qui est justement une émission très moderne.
Ah, clairement.
Essaye justement d'inviter des gens qui ne sont pas forcément des figures hyper notoire et estampillé du grand public, mais c'est comme ça que ça se passe aussi. Le but du jeu, c'est de faire connaître de nouvelles personnes, de nouveaux artistes, et essayer de faire découvrir aux gens des nouvelles choses. Et je pense que c'est justement le bon axe, c'est de faire découvrir des nouvelles choses aux gens. Les gens sont potentiellement intéressés par n'importe quoi, faut juste le faire de manière brillante.
Ouais. Ouais, clairement.
Dedo, on arrive à la fin d'un moment que moi j'ai trouvé légendaire.
Clairement légendaire.
C'est voilà. Vrai, comme le roi Arthur, tout ça.
Comme le roi
ouais,
Arthur.
C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Mystique.
Comme Charles VII.
Un podcast mystique.
Ah, ouais, j'aime bien. Ouais. C'est moyenâgeux. Il y avait la peste noire, mais il y avait aussi des amuseurs notoires qui jouaient de la lyre. Tu vois, donc,
oui.
On aime bien ça.
Et tu en fais partie. Voilà, j'aurais bien vu comme ça en plus.
Ah bah j'espère.
Ouais. Mais avant ça, en off, Raphaël me disait qu'il avait envie de te poser une question.
Attends, attention, j'ai un happening qui n'est pas du tout radiophonique. Vous êtes prêts?
Ouais.
C'est pas des avances, hein. Je fais pas des avances.
Alors, c'est chelou parce qu'il est en train de lui montrer un t-shirt. Voilà.
Moi j'allais dire, il est en train de se dessaper. Mais
Oui, il est en train de se dévier aussi.
Ah, mais très bonne référence.
Est-ce que tu peux l'expliquer cette référence? Parce que je ne connais pas
alors,
du tout. Hein.
J'ai juste un t-shirt Gojira. Gojira qui est un groupe de métal français qui est l'un des plus grands groupes de métal du monde, on peut le dire.
Et bah maintenant, oui. Et c'est ça qui est assez fou et qui est. Qui fait vraiment incroyablement plaisir. C'est que Gojira est un groupe de métal dont les principaux membres sont originaires de Bordeaux.
Oui, c'est ça, ouais, par là-bas. Ouais,
voilà, et du coup, c'est un groupe de métal extrême en plus, hein, qui était à la base hyper inspiré de Morbid Angel pour les connaisseurs. Si vous ne connaissez pas, allez voir un peu ce que c'est.
Maintenant, ils sont un peu plus. Ils se sont calmés un petit peu, ils sont un peu plus prog sur celui-là notamment. Ouais, ils sont un peu plus.
Au fur et à mesure, mais parce que, comme dans n'importe quelle évolution de carrière, je pense que voilà, t'as des moments où tu changes, où t'as envie d'essayer de nouveaux trucs, et ça se trouve, ce sera plus ça maintenant. Mais en tout cas, ce qui est assez fou, c'est que c'est donc français. C'est pas un énorme pays la France, et c'est un groupe qui est en train de cartonner partout à l'international, qui a été adoubé par les gars de Metallica
ils étaient au Grammy Award aussi.
Ils étaient au Grammy, c'était la première fois que des artistes
avec
des artistes
les Daft et tout
français,
et il y avait Gojira quoi.
C'était assez incroyable pour ça c'est quelque chose d'assez fou de se dire que un groupe originaire d'une petite ville comme Bordeaux a une résonance sur le plan international musical. Alors c'est pas non plus du niveau de Beyoncé.
Non, bien sûr que non.
Voilà, mais c'est quand même très gros. C'est quand même très très gros. Ça remplit d'immenses salles en très peu de temps.
Si tu mets ça à l'échelle du métal, c'est
énorme. C'est vraiment énormissime. Les ventes sont complètement folles et c'est légitime parce que c'est vraiment un truc hyper abouti, hyper sincère, et surtout et c'est ça qui a fait la différence pour moi, je pense, dans leur popularité. C'est vraiment des tueurs de folie en live. C'est-à-dire que le live, c'est là différence se fait.
Évidemment, je suis très fan. Notion spéciale au batteur, Mario Duplantier.
Mario,
qui est un des plus grands batteurs de métal.
Mais Joe est aussi un coach du Duplantier.
Oui, le chanteur. Ils sont frangins.
Évidemment. Et Stéphane.
Le bassiste, tu l'as.
Mais c'est vrai que le live se fait comme pour beaucoup d'artistes. Je pense que c'est là où tu découvres aussi un peu les gens par moment. Et eux, vraiment, en live, le son est fou.
Incroyable.
C'est carré de dingue. Ça
le chant,
dans tous les sens.
Tout est parfait.
Donc bah voilà, il y a pas de. Je pense que dans une réussite, quelle qu'elle soit, même quand les gens sont médisants sur certains artistes, sans nommer qui que ce soit, il y a pas de hasard. Il y a pas de hasard. Si t'arrives à fédérer aussi large, c'est que quand même il y a du boulot, il y a du talent, il y a quelque chose.
Oui, clairement. Mais je voulais t'amener à autre chose, c'est que Gojira était à la dernière édition du Hellfest.
Bah oui, j'y étais.
Et tu y étais aussi.
Oui.
Avec Princess Leia.
Effectivement.
Et je voulais juste te demander si en fait ça rejoint un peu la question de Mounir tout à l'heure quand tu disais que tout était un peu complémentaire entre le cinéma, l'humour, le métal, tout ça. J'imagine que c'est un truc qu'on t'a déjà dit, mais moi je suis ultra fan, justement le mot est bien choisi, d'Ultra Vomit.
Ouais.
Ce sont des gens qui font du métal avec des qui parodient des groupes de métal et qui font de l'humour avec du métal.
Ouais.
Et j'ai retrouvé ça dans Princess Leia. En fait, est-ce que tout se transvide? Est-ce que la musique t'inspire pour l'humour inversement? Parce que évidemment, quand j'ai vu que tu faisais du métal, je me suis dit on va rigoler quoi. Et donc je suis tombé sur, je crois, Ustensil. Il y a eu la reprise de Makeba de Jane aussi qui a
marché aussi.
Et En fait, est-ce que tout se nourrit ou c'est des trucs, comme disait Mounir tout à l'heure, c'est une seule et même entité qui va transparaître sur différents arts, en fait.
Ouais, je pense que sans le vouloir, de par le fait que effectivement, je suis attiré par beaucoup de choses, que ce soit la BD ou la musique ou le cinéma ou les séries ou je sais pas, ça fait que tu te nourris de tout ça par la force des choses. Après, pour le projet des Princesses Leia, ouais, ça s'est presque fait par hasard, dans le sens où pour ceux qui connaissent pas, le Princesse Leia est un projet musical que je fais actuellement avec Antoine Chouski, qui est un autre ami comédien.
Vous avez une petite date à Paris d'ailleurs.
On a une date, ouais, on joue le 23 novembre au Petit Bain, pour ceux qui veulent découvrir ce que c'est.
Bah ouais,
c'est
cool, il y aura ça. Le lien pour les dates.
C'est une belle scène au Petit Bain.
C'est une super scène. Bah ouais. On a eu la chance de faire la boule noire l'année dernière
complet,
un projet qui avait à peine un an, et là encore, on a fait donc 15 dates au Warm Up Hellfest, qui est une tournée itinérante pré-Hellfest où on a joué dans des salles entre 800 et 1200 personnes, et on a fini au Zénith de Nantes avec une très grosse affiche, dont Ultra Vomit, dont Massisteria.
Ah, vous avez joué avec eux?
Ouais, on a joué avec eux.
Trop bien.
On les connaît, Ultra, c'est des potes.
Génial, évidemment.
Pour eux, il n'y a pas longtemps.
Ça m'étonne très peu.
Et donc, on a joué devant 7000 personnes dans un Zénith pour un projet qui a un peu plus d'un an. Nous, on hallucinait total parce qu'on ne peut pas choisir ça. Pour décrire le projet, c'est à la fois un vrai concert live, à la fois une pièce de théâtre et à la fois une comédie musicale. C'est-à-dire que le scénario s'articule sur le fait que le personnage d'Antoine Chomsky, son père a gagné l'Eurovision. Il a envie de lui prouver qu'il est capable de faire de la musique. Son père lui dit, franchement, ça se voit, c'est que mort, c'est pas fait pour toi. Du coup, dit, bah non, bah, je vais faire l'Eurovision, je vais monter un groupe. Et dès qu'il va voir quelqu'un pour faire l'Eurovision, tout le monde lui dit, bien évidemment, franchement, laisse-moi tranquille avec l'Eurovision, c'est nul. Et il vient me voir en dernier recours et je lui dis, bah écoute, je le fais à la condition sine qua non qu'on fasse du métal. Et donc, nos deux personnages s'affrontent sur scène. Donc, lui, qui est un peu dans la pop acidulée et fan de Patrick Bruel et consorts, et moi, qui suis un peu plus dans les musiques énervées. Et donc, on fait cohabiter ces deux personnages-là. Et on suit à travers le prisme de flashback, de flash-forward, comment le groupe s'est fait, vers quoi il veut aller. Et donc, c'est à la fois un truc très théâtralisé, à la fois des vrais morceaux live, comme dans un live, et à la fois des moments de comédie musicale. Donc, c'est hyper hybride.
C'est une gymnastique de dingue.
Ouais, j'avoue, c'est
sportif de ouf.
C'est assez particulier dans le sens où, effectivement, ça demande une énergie particulière, et surtout, ça demande une construction et un rythme dans le spectacle qui sont assez délicats à trouver, dans le sens où on alterne à l'équilibre au maximum entre les moments musicaux, les moments théâtralisés, pour justement qu'on ne s'ennuie pas. Parce que s'il y avait 30 minutes de blabla et après 30 minutes de musique, peut-être que du coup les gens seraient un petit peu déstabilisés parce qu'ils préfèrent telle ou telle partie.
Oui.
Ouais. Là, on essaye de faire tenir sur un fil rouge qui construit l'histoire, un truc alterné, suffisamment dense et rythmé pour que les gens s'ennuient jamais.
Qu'ils soient équilibrés,
Et nous, ce qu'on voulait le plus, en tout cas avec Antoine, c'est que on nous connaît via justement le biais de l'humour, mais on voulait qu'on soit jugé de manière irréprochable sur la musique. Parce qu'on savait que les gens diraient, ok, les blagues, ils savent, mais maintenant, si vous faites de la musique, les gars, si c'est middle, laissez-nous tranquilles.
Tu l'as pas dit parce que t'es très modeste, mais t'es au chant et tu chantes super bien. Quoi. Moi, je suis très fan des voix qui raclent un peu la gorge, on va pas se mentir. Et tu t'en sors super bien. Enfin, je sais pas. Moi, j'étais très, très bluffé quand je suis tombé sur tes chansons. Je sais pas, je m'attendais pas du tout à ça à la voix. Et comme tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc, je pense que malheureusement, c'est très français, il y a un peu ce truc de se dire, bon, il m'éclate sur scène, mais je sais pas ce qu'il vaut en musique, on va voir. Et j'ai vraiment fait, il y a du taf, quoi. Clairement, ça se voit.
C'est très gentil de ta part. Et c'est vrai que le but du jeu, c'était de convaincre les gens et qu'on leur dise, écoutez, nous, on arrive avec ce projet-là, faites-nous confiance, on va être performant dans les vannes, et on va être performant dans la musique, et parce qu'on a envie d'être performant sur un spectacle entier que vous ressortiez en vous disant, on a vu un truc vraiment qui nous a éclaté. Et on est content parce que la plupart des gens qui découvrent le spectacle savent pas forcément ce que c'est. Ouais. Moi, les meilleurs retours que j'ai pu avoir, c'est des gens qui venaient avec d'autres gens, qui savaient absolument pas, qui avaient rien écouté et qui ressortent en disant c'était super. Et que ce soit des gens hyper métal ou que ce soit des gens pas du tout métal.
Encore mieux.
Parce que le but du jeu, c'est de rassembler. C'est un spectacle qui est là pour rassembler tout le monde, que ce soit justement les métalleux ou les autres. Et le but du jeu, c'est justement de casser cette image-là qu'on peut avoir du métalleux ou même du mec qui écoute de la variété française et qui peut être un peu chiant. On n'est pas segmentant, on veut rassembler. Ça a toujours été la ligne directrice, en tout cas pour moi, dans mon expression artistique. Et le faire par ce biais-là, qui est à la fois musical et théâtral, c'est vraiment une éclate totale et j'espère que ça va continuer de plus en plus et de plus en plus grossissant.
Eh ben,
ça donne envie.
Ouais, ça donne vraiment envie. Même pour moi qui connais vraiment pas du tout le métal, je connais juste la chanson de Gojira qui s'appelle Par-delà les vertes allées.
Oui.
Parce que la connais.
C'est bien déjà. Et qu'est-ce qui fait que t'es allé vers cette chanson? Le titre.
C'est un amoureux de la littérature.
J'aime beaucoup le refrain. Est-ce que je peux vous faire le refrain?
Avec plaisir.
T'en prie, ouais.
Par de là et vers de
tu sais que... Mais vocalement, voilà. T'es très près de Joe Duplantier.
Mais ouais, il y a quelque chose. Hein. Ouais, ouais.
Bah, je, bah,
et même pourquoi... capillairement, t'es pas loin.
Hein. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux.
Ah, il
ouais,
y a
ouais.
quelque chose. Hein.
Attention, on lance pas sur le sujet. Hein,
non, bah, non, mais attention. Il y a de la masse, hein. Attention.
Ah, bah oui, bien sûr.
On sent qu'il y a du potentiel.
Il a de quoi faire, mais il veut pas accepter le métalleux qui vit en lui.
Mais moi, je suis très ouvert à tous les trucs, mais sauf que le métal, moi, je c'est pas un genre auquel je me suis comme ça.
Ouais, mais c'est normal. Après,
ça peut arriver, bien sûr. Après, j'aime bien Metallica, par exemple.
Ah, bah tu vois.
Tu vois. Mais après, est-ce que AC/DC c'est du métal?
Oh oui, enfin oui, ça reste considéré, c'est du hard rock, mais ça reste, ouais, le hard rock fait partie du métal au final.
Allez, ouais. je te donne, ça passe.
Ça prouve ton ouverture d'esprit, parce que des gens juste oui. AC/DC, ils auraient dit mais jamais de la vie, quoi. Vrai, ouais. Jamais de la vie.
Ouais.
Donc voilà, je pense que
non,
ce qu'on disait tout à l'heure,
pas mal,
on peut aimer des choses qui sont très absolument pas associables dans l'absolu, mais et je pense qu'il y a des gens qui aiment Dirty Dancing et qui peuvent aimer Human Centipede, c'est possible.
Moi j'écoute beaucoup de Michel Delpech et de la musique roumaine.
Bah tu vois, voilà.
Donc, voilà.
Mais parce que voilà, il faut qu'on comprenne un moment les choses. L'avenir, c'est le métissage. Quel que soit le métissage. Donc, le métissage culturel, le métissage humain. Donc, arrêtez d'avoir des idées arrêtées sur les choses et ouvrez-vous à n'importe quoi et vous allez en ressortir grandi.
Eh ben, c'est magnifique.
Je peux pas faire mieux que
sous ce générique qui arrive maintenant. Magnifique, ce timing, je kiffe, j'adore.
J'en profite pour te couper deux secondes. On avait dit qu'on terminait sur un mot pour pouvoir lancer la prochaine émission.
Je te remercie.
Attends. Alors, ce mot arrivera après. J'aimerais juste avoir ton actu.
Alors mon actu, je suis actuellement donc avec les Princesses Leia en tournée jusqu'à fin décembre et sur quelques dates en 2020. Donc là on joue, l'émission est diffusée quand ?
La semaine prochaine.
Donc on aura déjà fait quelques dates. Retrouvez les différentes dates soit sur le Twitter, Facebook de Princesse Leia pour être au courant. Je suis également, sinon il y a le 23 novembre au cas où, à la 23 novembre, merde, j'ai oublié le nom de la salle.
Petit bain à Paris.
23 novembre au Petit Bain à Paris pour les Parisiens. Là vous, déjà celle-là elle est sûre. Ensuite je suis actuellement en tournée de rodage de mon nouveau spectacle. Donc voilà, je joue prochainement à Caen le 30 et 31 octobre. Je sais pas si ça sera déjà passé ou pas. Et vous retrouvez mon actualité pareil sur les Twitter et Facebook et les différents réseaux sociaux. Il y a une trentaine de dates jusqu'à avril de l'année prochaine. Il y aura Lyon, Marseille, Rouen, Tours, Nice, plein d'autres. Voilà, allez voir si vous avez l'occasion. C'est vraiment un rodage, donc c'est ce que j'appelle les balbutiements dans un sens positif, c'est-à-dire qu'on prend ses marques. On va tester du matériel d'un soir à l'autre. On va peut-être se dire, bah non, cette vanne-là, vraiment, je vais plus jamais la dire sur 14 vies différentes. Mais le but du jeu, c'est vraiment de construire avec les gens, de passer un bon moment et de justement de voir comment un spectacle se crée au fur et à mesure. Il y a quelque chose d'assez jubilatoire par rapport à ça parce que j'assume complètement cette fragilité-là et je pense que les gens aiment voir justement quelque chose qui naît quelque part un peu sous leurs yeux. Donc venez participer à ça, c'est ce que je disais pour vendre un peu ce rodage. C'est un nouveau-né, donc aidez-le à marcher, aidez-le à avoir les dents qui poussent.
On
parce
fera
que,
tout pour.
Voilà, ouais. Pour l'instant, vraiment, il a sa fontanelle qui est très molle. Donc aidez-le un maximum.
Merci
donc,
pour le mot fontanelle.
Bah, avec plaisir, j'en parle dans le spectacle.
Et merci vraiment infiniment, on a adoré ce moment avec toi, Dedo, vraiment.
Merci
vraiment.
À toi, vraiment, ça me fait plaisir. Ouais. Et juste pour ceux que ça intéresse, effectivement, je fais de la BD depuis maintenant, cette année est sortie. Je suis édité chez Delcourt dans la collection Une case en moins de Davy Mourier sur une BD qui s'appelle White Spirit, qui est mon hommage à moi, mon humble hommage au conte de la crypte. Donc c'est une image, c'est une histoire fantastique matinée d'humour noir. Voilà, ça part sur une cérémonie de Ouija qui tourne mal. Si vous aimez ce que je fais, je pense que vous ne serez pas déçus. Et logiquement, si tout se passe bien, j'espère que la deuxième pourra avoir lieu incessamment sous peu. Et ça sera un thriller psychologique en maison de retraite. Voilà.
Génial. Et le mot de la fin, du coup, que tu voulais
dire avant.
Eh bien, ce sera catapulte.
C'est accepté.
Catapulte.
Pour moi, c'est validé.
C'est totalement validé.
On repartira sur catapulte pour le prochain épisode.
J'ai passé un très bon moment avec vous, sincèrement.
Merci
beaucoup.
C'était
vraiment cool de discuter et c'était des questions qu'on n'a pas l'habitude de me poser. C'est ce que je te disais en off. Et c'est agréable de pouvoir justement parler d'autres choses et de pouvoir aborder d'autres histoires qu'on a déjà racontées mille fois. Donc bravo à vous. Merci.
Merci infiniment et à très bientôt pour un nouvel épisode de LOL Meet Tender.
C'est quoi pour toi l'album rock de référence, en fait, l'album rock de référence?
AC/DC.
D'accord, ouais, mais l'album?
Tous? Tous.
J'imagine, il y en a bien un qui te secoue un peu plus que les autres quand même, en particulier.
Oui.
Lequel?
Greatest hits.
Pardon?
Greatest hits.
Une compil d'ACDC, quoi.
Non, l'album. L'album Greatest Hits, pardon.
Les meilleurs morceaux. D'ACDC.
T'aimes pas Greatest Hits?
Ah oui, de ACDC? Ah si. C'est bon pour moi.
C'est bon pour moi.